Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission au fil des pages sur Radio Alliance Plus, ici à Nîmes. Nous avons le grand plaisir d'accueillir à nouveau parce que ça fait un certain temps qu'elle n'est pas venue, Marie-Bernadette Mars. Bonjour Marie-Bernadette.
Bonjour Monsieur Delors.
Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau ici. C'était il y a 2 ans, je crois, que vous êtes venue.
Oui, exactement. Au même moment de l'année, il y a 2 ans.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes dans la région. Vous venez de Belgique. Et donc, c'est un honneur pour nous de vous avoir en tant que... Parce que la Belgique, ce n'est pas tout à côté d'ici.
Non.
Et vous êtes familière du Midi de la France. Vous venez de temps en temps. Et là, vous êtes de passage ici pour 2 raisons. Alors, expliquez-nous pourquoi.
Oui. Donc, c'est la 4e année, en fait, que je suis invitée dans les Cévennes, à Saint-Jean-du-Gard et dans les villages voisins, donc dans la vallée Borgne, pour une semaine d'activités littéraires. Alors, cette année-ci, donc, comme l'année dernière, il y a 2 points forts. Donc, d'une part, un atelier d'écriture demain toute la journée, qui est organisé par l'association Déclic et Stimuli, qui travaille avec les bibliothèques donc, de la vallée Borgne. Il s'agit d'un groupe qui se réunit vraiment régulièrement, qui se réunit tous les mois pour écrire. Donc là, j'anime un atelier demain toute la journée. Et alors, la deuxième activité, qui ressemble un petit peu à une de l'année dernière, c'est une lecture publique. Alors, l'année dernière, c'était une lecture publique de mon adaptation théâtrale « Le sentier des Agoria », qui est donc une adaptation théâtrale...
On en parlera tout à l'heure.
Oui. Et cette année-ci, c'est la lecture d'une nouvelle « L'homme qui voulait oublier le bois du casier », qui aura lieu samedi.
Ce samedi, on en redira tout à l'heure. Hein. Oui. Une lecture publique, c'est pas une pièce de théâtre, c'est vous-même qui faites la lecture ou bien c'est comment ça se passe?
Non, ce n'est pas moi qui fais la lecture. Donc ici, c'est un groupe de personnes qui avaient envie de faire cela l'année dernière et le groupe, c'était vraiment bien entendu, avait beaucoup apprécié ce projet et donc a eu envie de remettre cela cette année-ci, donc de recommencer un projet semblable mais avec un autre texte. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai proposé cette nouvelle. Donc le texte est très différent de l'année dernière, il est plus court. Ici, c'est une nouvelle. Et donc, il y a 8 personnes qui vont lire successivement différents extraits.
Et là, vous connaissiez des gens dans la région qui vous ont invité. Comment ça se... Et ils vous connaissaient de renom, ils vous avaient lu, ils vous avaient vu, ils vous...
Au point de départ, c'est une amie originaire de Belgique, mais qui a vécu longtemps dans les Cévennes, à Saint-Jean-du-Gard, qui avait offert mes livres à plusieurs personnes qui les ont appréciés, et qui lui ont demandé s'il n'y avait pas moyen de me rencontrer. Oui. Et c'est comme ça qu'en 2023, je suis venue pour la première fois. Oui. Et puis depuis lors, c'est clair que j'ai établi pas mal de contacts et que je m'entends vraiment fort bien avec les personnes rencontrées.
Et j'ai vu sur votre site internet que vous avez aussi des liens avec Avignon. Vous faites partie d'une société d'auteurs qui travaille. Il y a un événement qui se passe à Avignon, n'est-ce pas?
Oui, en fait, il s'agit de la SABAM. La SABAM, c'est une société de droit d'auteur belge, mais qui a un accord, un partenariat avec le Théâtre Transversal d'Avignon, donc qui est une troupe de théâtre permanente à Avignon. Et à l'automne, début octobre, il y a depuis 4-5 ans, un festival d'octobre où sont lus 5 ou 6 textes, pièces belges. Donc 3 qui au point de départ sont écrites en néerlandais et ont été traduites et 3 qui sont directement écrites en français. Et donc en 2024, oui il y a 2 ans, j'avais proposé le texte « Le sentier des Agoria ». Donc, qui est l'adaptation, j'avais écrit avant « L'échelle des Agoriades », qui est un roman qui n'a, j'ai envie de dire, rien de théâtral. Si ce n'est que plusieurs personnes m'avaient dit que j'avais une écriture qui se prêtait bien à l'oralité. Et donc, il y a 2 ans, quand j'ai vu cet appel de texte pour le théâtre, j'ai retravaillé évidemment toute la structure, tout le genre littéraire pour l'adapter en pièce de théâtre. Et mon texte a été sélectionné et a donc été lu en octobre 2024, a été élu à Avignon. C'était une expérience extraordinaire.
Oui, j'étais surpris parce qu'on parle du Festival de la Vigne en octobre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est?
Oui.
Et donc, vous nous expliquez l'origine de cet événement.
Et là, c'était donc le Théâtre Transversal qui s'occupait de la lecture.
Oui.
Donc, ces cinq personnes, là, c'est ce que j'avais prévu au point de départ pour les personnages.
Oui.
Et donc, c'est cinq acteurs et actrices de ce théâtre qui interprétaient la pièce. Donc, la lecture, déjà aussi, une lecture-spectacle.
Alors, nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent un peu, ou vous ne connaissent peut-être pas encore, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion d'écouter votre émission précédente, d'écouter le podcast, mais il y a un podcast. Mais c'est quand même bien de rappeler qui vous êtes. Donc, vous étiez professeur de littérature, et pas en particulier, vous aimez bien le grec, hein, vous êtes
oui.
Spécialiste du grec.
En fait, en Belgique, ou bien on est professeur de français,
oui.
Ou bien on est professeur de grec et de latin.
Oui.
Contrairement, je crois, en France, où on est professeur de latin et de français. Donc en Belgique, non. Ou bien c'est le français, ou bien ce sont les langues anciennes,
oui.
Latin et grec. Donc moi, j'étais professeur de latin et grec, philologue classique,
oui.
Et donc j'enseignais le latin, mais effectivement, j'ai beaucoup enseigné le grec. J'adorais enseigner le grec, j'ai vraiment une carrière que j'ai adorée. J'aime vraiment beaucoup donner cours, et j'aime vraiment beaucoup faire découvrir à des adolescents les textes extrêmement riches de l'Antiquité grecque.
Et votre intérêt pour la Grèce, il est antérieur à votre carrière, ou bien est-ce que c'est parce que vous avez fait du grec ancien que vous êtes intéressé à la Grèce et à toute sa culture? Parce que dans le fond, vous y êtes allé, vous avez à plusieurs reprises, j'imagine, pour voir un peu, pour mieux connaître.
Oui, au point de départ, évidemment, quand j'ai choisi de faire ces études-là, c'est la langue grecque, les cours que j'avais eus dans ce qu'on appelle les humanités,
oui.
Donc de 12 à 18 ans, qui m'avaient attiré. Mais à l'époque, je ne connaissais pas du tout la Grèce comme
oui.
pays. Et puis au fur et à mesure de ma carrière, je me suis rendu compte que pour beaucoup de personnes qui enseignaient le grec, la Grèce d'aujourd'hui n'existait quasi pas.
Oui.
Donc, ils étaient plongés dans le passé. C'est un petit peu comme si la Grèce avait arrêté de vivre, ou comme si c'était un pays différent. Et alors, avec mes élèves, j'ai organisé énormément de voyages en Grèce. Donc, surtout à partir de l'an 2000, de 2000 à 2018, quasi chaque année. Donc, avec des élèves. Et j'aime bien, évidemment, j'allais voir les sites classiques, mais j'aime beaucoup également leur montrer d'autres aspects de la Grèce. Donc, la Grèce d'aujourd'hui, la manière dont la Grèce avait lutté contre l'occupation ottomane, la manière aussi, il y a des parallélismes avec la Belgique, parce que l'indépendance de la Grèce date de 1830, à quelques mois de la Belgique. Et donc, j'aimais bien, à travers ça, on pouvait voir un peu l'histoire de l'Europe, et j'aimais bien leur montrer cela. Donc, leur faire découvrir aussi des régions comme les Agoria.
Oui.
Parce qu'en fait, on partait en car jusqu'en Cône, et puis notre car montait sur le bateau, ce qui permettait d'avoir un voyage moins cher, donc accessible à tout le monde,
oui.
Et ce qui permettait de voir d'autres régions beaucoup plus éloignées d'Athènes que ce que l'on fait oui. habituellement. Donc c'est comme ça que j'ai découvert d'autres aspects de la Grèce, et alors je m'y suis aussi intéressée personnellement, parce que ces voyages-là étaient évidemment très répétitifs pour moi, et en général je repars une deuxième fois en Grèce, à une autre époque, souvent à l'automne, qui est une magnifique région pour découvrir la Grèce, et où là, mon fil conducteur pour choisir une région, c'est d'essayer de découvrir quelque chose que je ne connais pas.
Alors, vous avez donc beaucoup de cordes à votre arc, vous êtes écrivaine, et vous intéressez au grec, mais vous êtes enseignante et vous aimez beaucoup l'enseignement et vous aimez beaucoup les élèves, travailler avec les élèves. Et j'ai lu dans un de vos petits livres qu'on aura l'occasion, peut-être, dont on aura l'occasion de parler, L'horizon en éclat, c'est un recueil, une nouvelle, où il y a une courte nouvelle sur justement ce voyage des enfants en Grèce et le contact entre le pays et en même temps un autre groupe qui sont des migrants. Et c'est un des aspects aussi de votre, dans vos derniers ouvrages, vous parlez beaucoup de migration, de mouvement, c'est ce que l'on avait évoqué lors de notre première émission,
oui.
Hein, beaucoup.
Oui. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui me touche beaucoup. J'ai eu l'occasion en Belgique de rencontrer, de croiser pas mal de migrants, parce que la Belgique est un petit peu une plaque tournante pour des gens qui, notamment, viennent d'Éthiopie, d'Érythrée. Ce sont ceux qu'on a le plus rencontrés et qui veulent passer en Angleterre. Et l'idée m'est venue d'écrire un recueil de nouvelles sur les migrants, notamment, vous venez d'y faire allusion, lors d'un voyage en Grèce que je faisais avec mes élèves et où on s'est trouvé dans le port de Patras, donc je vous ai dit qu'on allait reprendre le bateau, et où en arrivant, il y avait un mur qui séparait la rue, l'espace public et le port. Et moi, j'étais d'un côté du mur avec ma cinquantaine d'élèves et de l'autre côté, il y avait un groupe de migrants. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on est d'un côté ou l'autre du mur? Qu'est-ce qui fait que moi, mes élèves, ils reprennent le bateau avec des images heureuses, joyeuses, colorées? Et qu'est-ce qui fait que ceux qui sont de l'autre côté, leur avenir est vraiment beaucoup, beaucoup plus sombre? Alors, prendre une photo n'aurait pas été parlant. Et je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose là-dessus.
La nouvelle est magnifique. Hein, c'est de l'autre côté du mur.
C'est de l'autre côté du mur.
Titre, dans ce recueil de L'Horizon en éclats, des nouvelles très courtes, on les lit facilement. Oui. Mais ça vaut toutes les photos du monde, effectivement.
Oui. Et je voulais aussi montrer dans ce recueil sur les migrants que, aujourd'hui, beaucoup de migrants viennent vers des pays comme la France ou la Belgique, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, la première nouvelle concerne mon père, qui, en 1940, il avait 15 ans, ses parents lui ont dit « tu pars en France », mais exactement pour la même raison que des migrants d'aujourd'hui, parce qu'ils sont jeunes, parce que leurs parents souhaitent qu'ils aient la vie sauve, qu'ils ne meurent pas. Oui. Et les raisons sont encore les mêmes. Alors je me dis, on sait bien, par après, que ça a été beaucoup moins catastrophique pour les Belges qui étaient en France. Évidemment, c'est la même langue, ils sont revenus. Mais je me dis, à 15 ans, quand on part, on ne le sait pas. Et mon père en parlait toujours avec beaucoup d'émotion. Et il était d'ailleurs venu, il avait été accueilli, pas loin d'ici, à la Grand-Combe.
À la Grand-Combe,
près d'Alès. Et il en parlait toujours avec beaucoup d'émotion de ces gens qu'il avait accueillis et qui lui avaient donné à manger. Donc là, j'ai un peu fait le parallèle dans une nouvelle. Je voulais aussi montrer cela, oui.
Alors, revenons un tout petit peu sur l'atelier d'écriture. Dans le fond, comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on dit dans un atelier d'écriture?
Alors, j'adore parler des ateliers d'écriture parce que vous avez fait allusion, j'ai été professeur pendant de nombreuses années. Et une chose qui me plaisait beaucoup dans le métier de professeur, dans le métier d'enseignante, c'était la transmission. C'était de transmettre des choses qu'on a à cœur et d'éveiller la créativité chez les élèves. Alors maintenant, dans les ateliers d'écriture que j'organise, et j'en organise vraiment beaucoup pour différents groupes, je retrouve vraiment tout ce que j'aimais bien dans l'enseignement. Je retrouve cette transmission, cette envie de transmettre, et je retrouve aussi la capacité d'éveiller et de montrer aux gens qu'ils ont des ressources en eux, qu'ils peuvent écrire. Alors, j'en organise dans des groupes donc, complètement différents. Donc, en Belgique, notamment pour des personnes qui sont en traitement de cancer. Donc là, dans deux hôpitaux différents, dans deux villes différentes. Mais par exemple, j'en organise aussi avec l'UDA, c'est l'Université des aînés de l'Université de Louvain-la-Neuve. Oui. Là, c'est un cycle sur le récit de vie. Donc là, cette thématique qu'on m'a demandé donc, d'aborder au point de départ sur le récit de vie. Donc, des personnes qui ont envie de transmettre souvent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, des choses de leur passé, d'une génération précédente. Alors, j'en anime aussi en école, avec des enfants de 6 à 18 ans. Ce sont des programmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y a vraiment moyen de faire en sorte que les enfants écrivent. Là, parfois, on me propose des thématiques. Dernièrement, dans une école, je suis allée plusieurs fois sur la thématique « Laisser une trace ». Oui. Là, c'était la professeure qui m'invitait, qui avait choisi ce thème-là. Oui. Parfois, c'est moi qui peux proposer un thème. Certains professeurs aussi, qui savent que je suis professeur de grec et de latin, me demandent d'intervenir pour comment réécrire la mythologie. La semaine dernière, par exemple, j'animais un atelier sur... Égérie. Donc, on emploie toujours l'expression évidemment une égérie. Et donc, sur l'histoire d'Égérie, qui était en fait l'épouse ou la compagne du deuxième roi de Rome, de Numa. Je trouve que c'est une très belle métamorphose d'Ovide, c'est Ovide qui raconte cela. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Donc, comment réécrire ce mythe-là? Comment le faire parler aujourd'hui? Alors, J'anime aussi des ateliers d'écriture sur le thème « Les liens entre les arts et la littérature oui. ». Et alors, à chaque fois, ma manière de procéder, de toute manière, je mets une contrainte. Parce que je suis convaincue que la créativité se déploie quand il y a une contrainte. Oui. Donc là, il y a une contrainte au point de départ, mais pas une obligation d'écrire sur telle ou telle chose. Donc, j'ouvre des portes. Par exemple, je vais leur proposer une peinture avec une phrase d'accroche. Et à partir de là, cette phrase d'accroche peut déclencher des choses très intimistes ou des choses beaucoup plus indifférentes aux personnes. Ça peut déclencher des choses dramatiques ou ça peut déclencher de l'humour. Mais la contrainte, c'est de partir de la photo et de la phrase. Oui. Donc ça, c'est par exemple une manière de faire. J'aime beaucoup aussi travailler sur les cinq sens, parce que souvent, la vue est toujours exploitée, toujours utilisée. L'ouïe régulièrement, mais le goût et l'odorat le sont très peu. Et donc, c'est aussi une manière de donner aux personnes, que ce soit des jeunes, des enfants ou des adultes, des clés, des techniques pour le jour où ils sont un peu bloqués. Ou bien quand on a décrit quelque chose, ou bien de toute façon, on ne dit pas « je crois que j'ai tout dit ». Mais non, parfois on se dit « ah ben oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé du son, je n'ai pas parlé des odeurs ». Et ça peut vraiment déclencher des choses. Alors là, je suis tout le temps aux aguets. Dans la vie, n'importe où je vais passer dans un musée, je vais me dire, mais cette peinture-là, elle peut déclencher des choses. Je suis vraiment... c'est vraiment une de mes occupations principales maintenant. J'aime beaucoup le faire et je fais même des fiches systématiques. Enfin, je me spécialise vraiment dans les ateliers d'écriture.
Une séance d'atelier d'écriture, ça dure combien de temps à peu près?
C'est souvent entre 2 et 3 heures.
Ah oui,
Donc, par exemple, demain, à Saint-Jean-du-Gard, là, c'est toute la journée. Ah, oui. Enfin, c'est pas Saint-Jean-du-Gard, c'est à la bibliothèque des Plantiers. Mais... Donc, c'est toute la journée. Donc là, je vais faire 3 ou 4 animations différentes, 3 ou 4 techniques différentes. Oui. Ce sont des gens qui sont habitués à écrire, qui se réunissent très, très souvent. Là.
Et qui publient aussi un peu.
Non, je ne crois pas que... Non, ils ne publient pas, mais non.
Alors, à propos de publication, on va y venir, mais on va écouter un petit peu de musique en attendant.
Oui, très bien.
Une musique que vous avez choisie.
Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père, en rentrant, avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Oh, c'était les corons, la terre, c'était le charbon. C'était l'horizon, les hommes des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis. Oh non, c'était les corons, la terre, c'était le charbon. C'était l'horizon, les hommes des mineurs de fond.
Radio Alliance Plus, 103.2 FR, et puis le DAB+, et puis aussi le site internet radioalliance.fr. Nous sommes toujours dans cette émission au fil des pages avec Marie-Bernadette Mars, qui est écrivaine, en Belgique, mais aujourd'hui, c'est ces jours-ci, qui est en France pour animer des ateliers d'écriture et pour une lecture publique qui aura lieu à Saint-Jean-du-Gard ou au Plantier demain.
À Saumane, oui,
à Saumane,
oui, voilà. Au temple de Saumane.
Alors, on va, maintenant, il nous reste quelques minutes pour reparler de vos livres. On a beaucoup parlé lors de votre dernier passage, mais on va revenir un tout petit peu. Vous vous intéressez à la Grèce, vous vous intéressez à la femme, à la place de la femme dans la société.
Oui, absolument, oui.
Et puis, vous vous intéressez beaucoup, justement, à ces déplacements de personnes comme celle de votre père dans les années 40 et aujourd'hui, celle de beaucoup de gens à travers le monde qui viennent de divers pays. Et d'ailleurs, ça faisait l'objet de Rhapsodie afghane. Vous pouvez rappeler un tout petit peu de quoi il s'agit dans ce livre ?
Rhapsodie afghane, donc c'est le dernier roman que j'ai publié il y a 2 ans. Donc c'est à partir de l'histoire véridique d'une de mes amies qui a une bonne cinquantaine d'années, qui donne des cours de français à de jeunes migrants. Et c'est l'histoire d'une relation amoureuse avec un jeune migrant qui vient d'Afghanistan et qui, dès le départ, lui dit très clairement qu'il est marié, qu'il a 2 enfants, qui fait tout pour que sa femme et ses enfants viennent. Alors elle, au point de départ, n'osant parler à personne, ses amis la critiquaient un peu. Lui ne lui demandait rien de plus, il ne demandait pas d'argent, etc. Et alors, dans l'horizon en éclat auquel on a fait tout à l'heure, j'avais évoqué son histoire, et c'est à la suite de ça qu'elle m'en a beaucoup plus parlé, en me disant dès le départ, c'est mon histoire, mais c'est ton roman. Donc ça me laissait vraiment beaucoup de liberté. C'est un roman, effectivement, parce que l'histoire est vue de son côté, pas de son côté à elle, pas de son côté à lui.
Oui.
Et parce que j'ai pu ajouter aussi à cela toute une série de choses sur l'Afghanistan, mais qui sont intégrées, notamment aussi, pas seulement sur l'histoire, mais sur des femmes qui écrivent des poèmes. Donc là, c'est vraiment des choses que j'ai pu intégrer au roman.
Ce roman, comme les autres livres, sont publiés chez un éditeur et il marque A.
Academia.
Oui,
c'est une maison d'édition qui se trouve en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Oui, Academia, oui.
Alors, une parenthèse, vous avez un site internet qui rappelle justement toutes vos publications et vos engagements que j'ai évoqués,
oui.
Notamment avec les élèves, avec des très belles photos.
Oui, j'aime beaucoup la photo.
Ces ateliers que vous aviez avec les élèves. Et alors, on va parler de peut-être d'un de vos derniers travaux, qui est la transcription en pièce de théâtre d'un roman, c'est ça ?
Oui, donc là, c'est Le Sentier des Agorias. Donc ça, c'est celui auquel j'ai déjà fait allusion,
oui,
qui a été lu l'année dernière, oui. Ici, à Saint-Jean-du-Gard.
Oui, mais ce n'était pas la pièce de théâtre encore.
Si, c'était la pièce
c'était
de théâtre.
C'était la pièce de théâtre.
Oui, c'était la pièce de théâtre.
Mais
à l'origine, c'était l'échelle des Agorias.
L'échelle des Agorias, c'est ça qu'on a parlé il y a 2 ans surtout.
Du roman. Ah oui, oui. Il y a 2 ans, on n'avait pas parlé
alors,
de la pièce de théâtre.
L'échelle des Agorias, c'est le roman.
C'est le roman. Et alors, j'ai un peu modifié le titre pour qu'on voit la différence. Donc, Le Sentier des Agorias. Donc, dans l'échelle des Agorias, c'est l'histoire de Léa qui a 25 ans, qui se rend compte que sa grand-mère, qui est d'origine grecque, n'a jamais parlé de son passé et qui va retourner sur les traces de sa grand-mère. Alors, une chose que je fais à travers tous mes livres, c'est de montrer comment mon héros, mais plus souvent mes héroïnes, vivent avec les contraintes de lieu et de temps. Elles sont nées à tel endroit, à telle époque, et ça va marquer leur vie. Je crois que ça marque la vie de tout le monde. Donc c'est évident que quand on prend Rhapsodie afghane, le fait que ce jeune soit né en Afghanistan il y a une trentaine d'années, c'est pas la même chose... S'il était né il y a 60 ans en Belgique. Et donc, ici, dans l'échelle des Agorias, le sentier des Agorias aussi, donc je voulais vraiment montrer comment des femmes qui ont connu la dictature et les guerres civiles, comment se débrouille-t-on avec cela ? Et la Grèce, que je connaissais bien, m'offrait les 2 choses, malheureusement, évidemment, mais il y avait eu en 67 la prise de pouvoir par les colonels. Et donc ici, en arrière-fond, je ne vais pas dévoiler toute la trame, mais en arrière-fond, l'arrivée des colonels en 67 rappelle à la grand-mère et à son amie, qui ont alors une trentaine d'années, rappelle des choses qu'elles ont vécues, sans toujours les comprendre, lors de la guerre civile. Et je voulais aussi rappeler cette guerre civile dont on ne parle presque jamais, qui en Grèce, entre 45 et 49, a causé la mort de milliers de personnes, de communistes.
Oui. Et vous évoquez cette période dramatique dans certains des textes qui ne sont pas publiés sous forme papier, à ma connaissance, mais que vous avez publiés sur votre site internet. Vous avez quelques très beaux textes dans votre site internet, notamment Canto Général, je ne sais pas comment on dit.
Ah oui, le Canto Général. Oui,
Canto Général,
oui.
Qui évoque justement Mikis Theodorakis et
Pablo
Neruda.
Oui. Là, c'était un spectacle choral qui avait lieu en Belgique, qui était remarquable, remarquablement interprété. Donc, Theodorakis a mis en musique le poème de Canto Général de Pablo Neruda. Et la personne à qui on avait demandé de lire les textes de transition et de composer une introduction et une conclusion, m'a demandé de rédiger cette introduction et cette conclusion, parce qu'il savait que je connaissais la Grèce. Oui. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir, c'est peut-être un drôle de mot, plaisir, pour parler, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Je me suis évidemment replongée dans les textes de Pablo Neruda, dans la vie des deux personnages. Et donc, oui, j'ai écrit deux textes qui me tiennent vraiment à cœur. Un pour l'introduction à ce spectacle et un autre pour la fin. Mmh. Donc, où j'essaye de... Mais là, effectivement, vous avez raison, ce sont des textes beaucoup, beaucoup plus brefs, mais donc dans lesquels j'essaye de faire sentir...
C'est pour dire à nos auditrices et nos éditeurs qu'ils ne s'arrêtent pas au livre papier, mais qu'ils aillent aussi sur votre site et qu'ils y découvriront des perles.
Oui, c'est vrai.
Comme
oui,
celle-là,
c'est
entre
ce
autres.
Là, oui. Oui.
Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour, tour un peu rapide, mais de tous vos ouvrages. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter encore quelque chose.
Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé. Peut-être, puisque nous sommes en France, je suis vraiment enchantée d'être dans cette région-ci. Je suis enchantée de revenir ici à la radio, mais je suis vraiment très, très contente de pouvoir faire partager ce que j'ai écrit aussi loin. De voir la manière dont les personnes se réapproprient le texte. Ça, c'est vraiment une véritable joie de voir comment les gens font vibrer mon texte.
Merci beaucoup. Et alors, on vous attend l'an prochain, dès que vous voulez revenir. Revenez-nous avec d'autres
expériences. J'espère que d'ici l'année prochaine, j'aurai un nouveau roman. Oui,
n'hésitez pas à écrire.
Oui.
Merci beaucoup, Marie-Bernadette Mars, d'être venue dans cette émission Au fil des pages sur Radio Alliance Plus. Et voilà, et bonne pièce demain ou après-demain.
Oui, samedi.
Voilà.
Oui.
Et bon retour en Belgique.
Merci beaucoup et un énorme merci à vous, un énorme merci aux auditeurs et aux auditrices.
Au revoir.